Vous écoutez France Culture.
À Moudre jusqu'à 19h. Vous pouvez dès maintenant laisser vos commentaires à la page de l'émission. C'est bien sûr sur franceculture.fr et bonsoir à tous. Alors que l'année 2014 a d'ores et déjà inscrit à l'agenda politique une série de dossiers chauds, comme l'inversion significative de la courbe du chômage, les réformes fiscales et pénales, François Hollande est attendu dès le 14 janvier pour son premier grand exercice de communication de l'année. Pour ses traditionnels vœux à la presse, temps fort de l'agenda politico-médiatique, le président de la République sera-t-il mieux conseillé ? L'année 2013 aura en effet été marquée par l'impopularité chronique du chef de l'État, agrafée par des couacs conjoncturels. Le plus surprenant ayant été ses interventions présentées comme des tentatives de reprise en main qui lui auront coûté de nouveaux points en moins dans les sondages. Souvenez-vous de Dijon en mars dernier, un déplacement censé redonner de la confiance et recréer du lien avec les Français dont on a retenu que la contestation des mécontents. Ou encore l'affaire Leonarda, symbolique. François Hollande s'adresse aux Français pour sonner la fin de la partie. En proposant à la jeune collégienne kosovare de revenir seule en France, il se produit l'effet contraire. Au lieu d'apaiser, la polémique est relancée. Enfin, le mariage pour tous, réforme de société, le président choisit de mettre le débat sur la place publique, mal lui en a pris. L'affrontement entre les pros et les anti a étouffé le dialogue pour tous et la polémique s'est éternisée sans que jamais le président ne semble reprendre la main sur ce dossier. Faute tactique, faute stratégique, pourquoi le président de la République ne parvient-il pas à rendre lisible son action, ni audible ses intentions ? Doit-il porter seul la responsabilité de son impopularité ? François Hollande est-il mal conseillé ? C'est le thème ce soir du Grain à Moudre. Invité avec nous pour en parler jusqu'à 19h, Cécile Cornudet, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste politique aux Échos et vous suivez de près le président de la République.
Entre autres.
Donc vous voyez aussi les coulisses de cette communication. Philippe Rieuter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur associé au groupe d'analyse politique à l'université Paris-Ouest Nanterre et votre ouvrage « Sociologie de la communication politique » vient notamment d'être réédité à La Découverte. Enfin avec nous, Pierre Martin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes politologue au CNRS, spécialiste des systèmes électoraux, professeur à l'UEP de Grenoble, collaborateur régulier aussi de la revue Commentaire. Un grand merci à nos confrères de France Bleu Isère qui vous accueillent ce soir, qui vous ont ouvert les portes de leur studio. On commence peut-être avec vous, Pierre Martin. Dans Les Échos, paru ce matin, un nouveau baromètre CSA, Les Échos, où l'on voit clairement cette courbe rouge, cette courbe de popularité en baisse depuis un an et demi. 58% d'opinion favorable, c'était en mai 2012, une popularité à 24% aujourd'hui, en décembre 2013. Vous qui êtes un amoureux des chiffres, Pierre Martin, est-ce que ces pourcentages vous parlent et qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ah ben, bien sûr qu'ils me parlent, c'est-à-dire qu'ils indiquent, comme d'ailleurs d'autres baromètres, une popularité particulièrement faible, que ce soit pour le président ou aussi pour le gouvernement et le Premier ministre. Et effectivement, c'est un niveau de popularité qui est particulièrement inquiétant pour le pouvoir, surtout à l'approche d'une année où il y a pas mal d'échéances électorales.
Et alors, est-ce que le président de la République, est-ce que l'exécutif gouverne aussi avec ses chiffres ? Est-ce qu'il dirige avec ses chiffres ? Est-ce qu'il compte pour eux ?
Bien sûr qu'il compte, mais je dirais on ne gouverne pas avec les chiffres des sondages. On gouverne avec des contraintes politiques, avec des objectifs politiques, et naturellement, on espère, enfin je l'imagine, qu'au bout d'un certain temps, cette popularité s'améliorera.
Cécile Cornudet, une cote de popularité, ça tient à l'action d'un président, mais aussi à son image. Alors en termes de communication politique, qui conseille François Hollande aujourd'hui ?
Ça tient aussi, je pense, à la situation économique. N'importe quel président
aujourd'hui...
au terreau et au ressenti des Français. Alors, sur ces questions-là, il s'écoute beaucoup, lui. Il a des conseillers en communication. Il a deux attachés de presse. Et depuis, et 6 mois après son arrivée, il a nommé Claude Sérillon à l'Élysée.
Donc aux côtés de Claudine Ripert et de Christian Gravel,
qui sont les communicants. Voilà, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est un élément important sur la méthode Hollande en la matière. Il a fait venir Claude Sérillon avec son passé de journaliste, pour, notamment pour tout le visuel, la mise en scène de ses interventions télévisées. Mais il ne lui a pas donné de poids hiérarchique sur Christian Gravel et Claudine Ripert, ce qui fait qu'il y a une sorte de flou, on ne sait pas très bien qui conseille vraiment François Hollande en matière de communication.
Donc Claude Sérillon appelé à la rescousse, mais sans en avoir vraiment
il va monter en grade, c'est lui qui va tout superviser, et puis au fur et à mesure qu'il y a des émissions un peu ratées, finalement il ne se passe rien.
Alors Philippe Riotor, vous qui êtes un spécialiste en communication politique, quel est aujourd'hui le rôle de ces conseillers? Pourquoi est-ce qu'on les sollicite?
On les sollicite parce qu'on fait des sondages et il faut donc essayer de faire en sorte que l'homme politique, et particulièrement le président de la République, qui est toujours très exposé sous la Ve République, donne l'impression de répondre aux attentes des Français. Et les conseillers en communication sont là pour essayer de reproduire, de rétablir un lien qui, par définition, apparaît beaucoup moins ténu que lorsque l'on est un simple élu de base. L'éloignement est, on va dire, consubstantiel de la fonction, et les conseillers en communication sont là pour essayer de rétablir le lien.
Mais ils sont aussi là pour redresser une mauvaise image, non ?
Oui, du moins tenter de le faire.
Du moins
tenter de faire croire qu'ils arrivent à le faire, ce qui est quelque chose de très compliqué. D'autant que les conseillers en communication sont de moins en moins purement des gens de l'ombre, ce qu'ils étaient jusqu'alors. Ce qui veut dire qu'on se souvient de la présidence Sarkozy, mais on pourrait remonter également précédemment. Les conseillers en communication font de plus en plus l'objet de papiers dans la presse, sont de plus en plus exposés. Et cela aussi amène à s'interroger publiquement sur leur rôle. Alors pendant très très longtemps, cette question-là est une question de pure coulisse. C'est-à-dire qu'on s'intéressait aux politiques, aux acteurs politiques eux-mêmes, et on laissait dans l'ombre les gens qui étaient leurs conseillers. Maintenant, la thématique de l'émission le prouve, mais tout un tas de papiers dans la presse de manière générale. Le questionnement va au-delà des acteurs politiques de premier plan. Il porte un peu à l'américaine, où on sait que la présidence des États-Unis, la Maison-Blanche, le rôle des conseillers est historiquement un rôle majeur, ce qui n'est pas le cas historiquement de la France.
Ces fameux spin doctors, comme on les appelle. Hein.
Et justement, comme Nicolas Sarkozy l'avait beaucoup fait, je pense qu'une des difficultés aujourd'hui de Hollande, c'est qu'il ne veut surtout pas montrer qu'il est dans les mains de conseillers en communication. En plus, personnellement, il adore ça. Il adore le rapport avec les journalistes. Il a des numéros de téléphone de plein de journalistes. Il leur envoie des SMS encore. Il adore le contact avec les Français. Ce qui fait qu'il n'écoute pas toujours ce que lui disent ses conseillers. Ils lui disent, il faut que tu prennes du recul, que tu sois plus un président avec de la hauteur, de rarifier ta parole. Et lui, il ne peut pas s'empêcher, quand il voit des gens, de parler, de lancer une petite phrase, d'envoyer un SMS. Donc finalement, il y a un brouillage permanent de ce qu'essayent de transmettre les conseillers en communication par François Hollande lui-même, qui pense être son meilleur conseiller en communication.
Pierre Martin, on ne sait pas encore donc, si François Hollande est mal conseillé, mais une chose est sûre, c'est qu'il est conseillé, il aime consulter, non ?
Oui, mais si vous voulez, je voudrais qu'on revienne sur un premier point qui a été d'ailleurs brièvement abordé, c'est que sur l'impopularité du pouvoir et du président, l'un des points absolument fondamentaux, c'est la situation économique et sociale. Et là, effectivement, je dirais, depuis qu'on se trouve dans une situation économique et sociale difficile, sur tous les pouvoirs qui se sont succédés, on a tendance à dire c'est une question de communication. Alors c'est vrai que la communication, ça compte, mais en même temps, le fond de ce que les Français vivent, ça compte aussi. Et donc là-dessus, en particulier sur le niveau du chômage et le pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier que François Hollande est quelqu'un qui avait pris un certain nombre d'engagements. Donc il se trouve lié par ses engagements et tant que cette situation ne se sera pas améliorée sur le fond, ça lui est difficile de pouvoir présenter des options en politique intérieure qui soient de nature à pouvoir faire remonter sa popularité. Et ça, c'est pas simplement une affaire de communication.
Non, mais n'oublions pas que la crise...
Le deuxième point sur lequel je voudrais insister aussi...
Juste, Pierre Martin...
Les conseillers en communication, c'est le président qui les choisit. Donc, quand on dit est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est mal conseillé, n'oublions pas qu'au bout du compte, comme pour l'ensemble des responsables politiques, mais en particulier le président de la République, il est de toute façon responsable du choix de ses conseillers.
Et de la décision finale, au milieu bien des conseils sûr. Qu'on lui délivre, on imagine.
D'une part, du choix de ses conseillers, de son entourage, et puis d'autre part, de la décision. Et d'ailleurs, je pense qu'il se met toujours en situation d'assumer les responsabilités, les décisions.
Juste une précision, la crise a quand même aussi couvert quasiment la totalité du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La crise
oui,
remonte quand même
avant.
À 2008. Hein.
Et même avant.
Et pourtant, il n'y a pas eu de chute de popularité aussi forte qu'on a pu le connaître cette année avec François Hollande. Donc la crise n'explique pas tout non plus.
Bien sûr, mais n'oublions tout de même pas que Nicolas Sarkozy a quand même été battu au bout de son quinquennat, d'une part. D'autre part, que les résultats des élections intermédiaires sous Nicolas Sarkozy avaient été mauvais. D'ailleurs, ça lui a été reproché à l'intérieur de l'UMP. Mais là où vous avez raison, et je dirais une grande différence entre Nicolas Sarkozy et le pouvoir actuel, c'est que le pouvoir actuel refuse, ou en tout cas ne fait pas, ne cherche pas, je dirais, à dévier le mécontentement sur d'autres cibles. C'est-à-dire qu'en clair, il ne cherche pas des boucs émissaires. Et donc, du coup, il assume tout le mécontentement sur lui-même.
Cécile Cornudet.
Oui, moi je pense qu'à moyen terme, François Hollande a renoncé à remonter sa cote de popularité. Il sait que ça n'arrivera pas tout de suite. Il attend des résultats économiques, peut-être en fin de quinquennat. Je pense que c'est son pari pour se faire réélire en 2017. Mais aujourd'hui, il n'est pas obsédé par ça, je pense. En revanche, la difficulté, c'est que dès qu'il veut prendre une initiative, le fait d'être si bas dans les sondages fait que souvent, ça conduit à un flop. Parce que c'est pour ça aussi, sans doute, qu'il n'a pas remanié. C'est qu'il, vu son état dans les sondages, il sait que en 3-4 jours, il y a un petit effet et puis ça retombe.
Philippe Riotor.
C'est là où on voit le poids de la communication. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Pierre Martin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas laisser de côté les enjeux économiques, sociaux majeurs qui font que certainement c'est une partie de l'électorat qui a voté François Hollande qui vit très durement la crise économique et sociale et qui bien évidemment espérait peut-être un peu trop de son élection et se trouve évidemment aujourd'hui fort déçu. Ce qui veut dire que le décrochage qui s'opère semble s'opérer en partie sur quand même des électeurs de gauche, quoi. Donc le fait que ce soit des gens qui votent pas pour vous et qui sont vos adversaires qui éventuellement ne vous soutiennent pas, c'est pas très étonnant. Mais là, manifestement, le seuil atteint est un seuil très critique. En revanche, effectivement, on ne débat quasiment dans la presse que de la cote de popularité de François Hollande, ce qui montre bien évidemment l'importance prise par la question de la communication. Parce que, de façon un peu provocatrice, on pourrait dire finalement, si François Hollande est impopulaire, qu'est-ce que ça change ? Généralement, quasiment sous la Ve République, depuis Giscard d'Estaing, tous les pouvoirs politiques en place perdent des élections intermédiaires. Quasi systématiquement. Le seul qui ne les a pas réellement perdus pour les municipales de 2001, c'est Lionel Jospin. On connaît le résultat final. Il n'est pas forcément très enviable. Donc, en quoi est-ce véritablement gênant d'avoir une cote de popularité ? Effectivement.
Parce que derrière la popularité, il y a la crédibilité, quand même,
la capacité
du premier homme de l'État.
Oui, enfin, vous savez,
la confiance qu'on peut
sous la Ve République, vous pouvez agir sans aucun problème, sans être populaire.
L'important, c'est l'élection. Ce ne sont que des sondages.
Mais alors justement, il y a deux échéances électorales de taille qui arrivent quand même là en 2014. Alors peut-être que François Hollande ne va pas se présenter directement dans ces scrutins, mais est-ce que cette impopularité peut avoir une influence, une conséquence pour ses troupes ?
Certainement. Là, moi, je ne suis pas électoraliste, mais encore une fois, quand on regarde les résultats des élections intermédiaires, elles sont souvent une sanction pour le pouvoir en place. Pour une raison relativement simple, c'est que les électeurs, souvent du camp au pouvoir, ne se déplacent pas pour voter. Alors, pour les élections municipales, c'est toujours un scrutin très compliqué, où les enjeux locaux comptent énormément, donc c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, pour les élections européennes, il faudrait être très optimiste pour parier sur une très grande victoire du Parti Socialiste. Je pense que personne, au sein même du Parti Socialiste, ou à l'Élysée, n'y songe.
Pierre Martin, qui est lui électoraliste, et qui a le nez dans les chiffres depuis un moment, va peut-être pouvoir nous dire qui va gagner, qui va perdre à ces élections. Vous les avez déjà, les résultats, vous, non ?
Oh, faut pas exagérer tout de même. D'une part, parce que nous ne sommes pas encore au moment du vote, en tout cas pour les élections municipales, qui sont les premières qui vont arriver. Mais il est certain qu'il y a toujours un lien entre l'impopularité du pouvoir, je dirais, et le niveau de la défaite électorale de ceux qui sont au pouvoir lors des élections intermédiaires. Et il faut ajouter que la difficulté est d'autant plus grande pour François Hollande et le gouvernement que ces élections municipales, ce sera encore plus vrai pour les élections régionales l'année prochaine, l'année suivante, en 2015, vont être comparées par rapport à des élections qui se sont déroulées quand le Parti socialiste était dans l'opposition. Donc, à ce moment-là, c'est lui qui avait bénéficié de l'impopularité de l'UMP qui était au pouvoir. Donc, ça va jouer doublement. Et donc, effectivement, un tel niveau d'impopularité du pouvoir est un handicap certain pour les candidats socialistes, ça c'est sûr.
Mais est-ce que l'UMP est tellement plus populaire aujourd'hui ?
Oui, Martin. Mais c'est moins grave quand on est dans l'opposition. Parce qu'à ce moment-là, je dirais, on est porté par le vent de protestation. Le vrai problème de l'UMP, c'est la concurrence que lui fait le Front National.
C'est pour ça que les municipales ne vont peut-être pas être si mauvaises que ça pour le Parti Socialiste. Au premier tour, sans doute, mais au second, si on a 80% de triangulaires, comme beaucoup de sondages le disent, ça va jouer au détriment de l'UMP.
Surtout que la lecture
nationale. Oui, mais surtout dans les triangulaires, faut-il encore arriver en tête ?
Surtout que la lecture généralement nationale des municipales, le commentaire médiatique se limite très très souvent aux très grandes villes qui apparaissent comme étant évidemment symboliquement les plus importantes. Et il n'est pas du tout évident que le Parti Socialiste soit le plus perdant dans ce type de scrutin.
On cherche les symboles aux municipales. Donc si Marseille bascule à gauche...
Et Paris reste à gauche, et Lyon reste à gauche.
Bon,
évidemment, un certain nombre de villes seront perdues. Mais ce sera... Les municipales de 2001 avaient été pour cela assez intéressantes. Encore une fois, Paris, le PS avait perdu beaucoup de villes, Paris avait été conquis et finalement le bilan avait été paru comme un bilan en demi-teinte, le pouvoir en avait très très peu finalement pris ombrage et on sait ce qui s'est passé l'année suivante.
Oui, mais il faut savoir qu'en 2001, le niveau de popularité de Lionel Jospin était très positif, sans commune mesure par rapport à l'impopularité du pouvoir aujourd'hui. Il bénéficiait d'une situation économique au moment des municipales de 2001 qui était très favorable.
Ce qui n'a pas empêché la débâcle de 2002.
Considérable. Là, on est dans une situation qui est très différente. Et je crois aussi qu'il faut se méfier des sondages d'intention de vote municipaux à plusieurs mois de l'élection. Quand on se réfère à d'autres élections municipales, et en particulier celle de 2001, on se rend compte là aussi qu'il peut y avoir des écarts considérables.
Alors Pierre Martin, vous ne les voyez pas, mais Cécile Cornudet des Échos et Philippe Riotor, sociologue spécialiste de communication politique, vous approuvent sur cette dernière affirmation. À 18h40 sur France Culture, revenons à notre président. Sur cette question notamment de la communication politique, Philippe Riotor, Encore quelques éléments quand même à clarifier. Vous nous dites que la communication a colonisé la ville politique, que la politique est d'abord une affaire de communication aussi aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de ces bourdes, de ces boutades, de ces couacs, de ces faux pas? Est-ce qu'elles laissent quand même entrevoir un espace de liberté, un espace de spontanéité dans l'expression de la parole politique? C'est peut-être une manière positive de les aborder, à moins que ce soit là encore des dérapages contrôlés.
Si vous voulez justement parler de François Hollande, manifestement, sa parole est relativement libre, puisque ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que finalement les conseillers en communication sont concurrents les uns par rapport aux autres et ont du mal à se faire entendre du président. Et on sait très bien qu'il essaye de trouver un ensemble de latitudes par rapport au rôle, par rapport à la pesanteur du rôle. Et d'ailleurs, cela peut l'amener parfois à commettre des bourdes. La récente déclaration au CRIF sur l'Algérie qui se voulait une blague tout à fait innocente et qui n'était pas très méchante sur le fond, bien évidemment, pose problème à partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui est dans un rôle institutionnel. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas, avec François Hollande, un discours réellement prémâché par les communicants.
Oui.
Pardon, Pierre Martin.
Je voudrais dire aussi que peut-être que cette situation serait amenée à évoluer durant le quinquennat. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'au fond, François Hollande a eu une habitude du rapport avec les journalistes quand il était premier secrétaire, qu'il n'avait pas d'expérience, par exemple, ministérielle auparavant. Et donc, on peut avoir le sentiment qu'au début de son quinquennat, donc il gère lui-même, effectivement, toute cette communication, un petit peu comme il l'a gérée quand il était premier secrétaire. Et que, vraisemblablement, cette situation, ce sera assez logique qu'elle évolue avec l'expérience. Peut-être, je ne suis pas vraiment un professionnel de cette histoire de la communication politique, mais peut-être comme elle avait aussi un peu évolué pour François Mitterrand, alors que Nicolas Sarkozy a une expérience qui est très différente. Il avait une expérience de la communication au pouvoir quand il était ministre de l'Intérieur, en particulier avant de devenir président de la République.
Qui lui avait réussi, hein?
Voilà.
Philippe Riotor, justement, il paraît que François Hollande construit aussi l'image qu'il veut donner de lui, sa communication, en opposition avec son prédécesseur.
C'est assez visible. Les slogans de la thématique de campagne, le président normal, déjà était directement un décalque opposé de ce qu'était son prédécesseur. Le fait de vouloir renouer avec des conférences de presse, qui était un genre que Nicolas Sarkozy avait volontairement, parce que les expériences n'avaient pas été très, très, très réussies, jugées, en tout cas pas jugées comme telles. Le fait de vouloir renouer avec ce genre, là aussi, se veut très 5e République, mais en opposition justement avec la présidence Sarkozy. Le fait, même si encore une fois, il n'a pas non plus forcément toujours respecté cette promesse, entre guillemets, mais de vouloir se rendre sur les plateaux de télévision et ne pas recevoir les journalistes à l'Élysée, là encore, vise à se démarquer totalement de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on se souvient des slogans hyper-président, etc. L'importance de la com accordée à Sarkozy, bon, avec la volonté de, à la fois de lancer une thématique par jour quasiment et d'être extrêmement réactif à toute nouvelle, à tout événement politique. Manifestement, François Hollande essaye de prendre le contre-pied. Maintenant, effectivement, peut-être que cette obsession du contre-pied ne fait pas forcément une politique.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde l'enjoint presque à lâcher cette posture du président normal et lui-même, visiblement, essaierait de séparer ces deux corps du président, hein, comme les nomme Thierry Sausset, c'est-à-dire essayer de sortir de cette position du candidat qu'il voulait ou qu'il souhaitait rester et de chef dont il peine à revêtir l'habit. Cécile Cornudet des
Échos. Oui, ce qui est intéressant, c'est que même dans le choix du type de conseiller, il a pris le contre-pied de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il avait décidé de prendre des grandes personnalités, très clivées, parce qu'il disait, il me me faut, à l'Élysée, un reflet des débats du pays. Donc il avait un Henri Guénaud keynésien, il avait un François Pérol ou Xavier Muscat assez libéral, il avait une Emmanuelle Mignon. Et donc ça bouillonnait, il y avait des débats qui filtraient, qui sortaient des murs du château. François Hollande, il a pris exactement le contre-pied. Il a voulu des conseillers non politiques et absolument confortable. C'est-à-dire, ce qu'il a fait primer, c'est sa confiance dans la personne, le fait qu'il serait d'accord avec lui, etc. Ce qui fait qu'on n'a aucun débat qui sort jamais de l'Élysée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du documentaire qu'a fait Rothman sur le pouvoir. Ça s'appelle Le Pouvoir, je crois. C'est fascinant. On a l'impression de gens très modestes, qui lèvent un peu le doigt pour parler, à qui François Hollande d'ailleurs parle pas toujours très très bien. Et donc il a choisi, et ça je pense qu'aujourd'hui il se remet en cause là-dessus. Beaucoup de gens lui disent non, il faut arrêter ça, il faut prendre des gens un peu plus puissants.
Alors Philippe Riotor, on dit que, alors à part François Mitterrand, hein, qui s'était quand même entouré, il avait fait campagne avec Jacques Séguéla, il avait présidé avec Jacques Pilon, on dit que la gauche est quand même beaucoup plus méfiante par tradition envers ses spin doctors, hein, envers ses conseillers en communication que ne l'est la droite.
C'est vrai historiquement, mais enfin, après, il faudra regarder d'un pays à l'autre. On sait qu'en Angleterre, c'est Tony Blair quand même qui a beaucoup contribué à l'avènement justement des spin-doctors, occupant un poids non seulement symboliquement, mais matériellement très important au sein du dispositif du pouvoir. Longtemps, les conseillers en communication étaient quand même des personnes de second plan, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, à gauche, on sait que quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn, quand il a préparé sa pré-campagne et quand il était donné comme étant le candidat socialiste à l'élection présidentielle, était quand même très très proche de l'équipe de RSCG. Donc, vous avez rappelé le lien entre François Mitterrand et Jacques Séguéla. La mise en place de la cellule de communication à l'Élysée date de 1984, c'est-à-dire de la présidence Mitterrand, à un moment où, justement, la popularité de François Mitterrand paraissait à l'époque catastrophique. Bon, certes, elle a été battue par ses successeurs, mais elle apparaissait absolument catastrophique.
Mais là, il paraît que la ligne de budget consacrée à la communication et au sondage, en interne, à l'Élysée, a été réduite de manière conséquente.
Elle ne pouvait guère augmenter. Elle ne pouvait guère augmenter au vu de l'importance des sondages commandés par Nicolas Sarkozy et des problèmes publics, on le sait bien, y compris judiciaires, que cela a pu entraîner.
Pierre Martin, pardon, on vous a pas entendu. Je rappelle que vous êtes avec nous en duplex de France Bleu Isère.
Oui, oui. Faut pas oublier sur la réduction du budget des sondages. Il me semble que c'était un engagement de François Hollande.
Mais aussi sur les conseils en communication. C'est ce qu'on cherchait à souligner. Dites-nous, Pierre Martin, justement, sur cet aspect de la tradition des conseillers en communication plus ancrés à droite qu'à gauche, les socialistes, lui, préférant peut-être la force collective du parti. C'est vrai que les voix auxquelles François Hollande se réfère, qu'il écoute, sont plutôt des proches du Parti socialiste, non ?
Oui, mais c'est surtout aussi, voyez-vous, ce qui a été décrit sur le fonctionnement de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, avec ses personnalités fortes, ses débats qui sortaient de l'Élysée. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe au gouvernement. C'est au gouvernement, finalement, qu'il y a ces personnalités fortes, qu'il y a ces débats, qu'il y a ces éclats et ces contradictions. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un peu reproché. On dit il y a trop de désordre au gouvernement, mais c'est aussi parce qu'il y a des personnalités fortes qui s'expriment et qui ont, donc pour un certain nombre, elles ont leur légitimité. Pour d'autres aussi, ce sont justement les proches du président, ceux avec qui il avait l'habitude de travailler, ceux qui sont ses amis, par exemple comme Le Drian, Le Foll ou Sapin.
Alors on va dire un peu tout et son contraire, mais il paraît que c'est aussi suite à ces désordres, à la multiplication des couacs, qu'au printemps dernier, Jean-Marc Ayrault s'est associé les services de Jérôme Batou, qui est un ancien de Publicis et qui a été surnommé par les médias l'homme anti-couac de Matignon. Et là, c'est un chargé de communication.
Oui, mais là, ça pointe la différence, si vous voulez, de vécu dans la vie politique de François Hollande par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que lui, ses proches, son équipe, ce sont des gens qui maintenant sont au gouvernement. Tandis qu'effectivement, pour Nicolas Sarkozy, c'était plus une équipe qui, après ça, s'est retrouvée à l'Élysée.
Cécile Cornudet.
Oui, c'est vrai. Alors après, il faut se poser la question de quel est le plus efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande, je pense que les gens qui l'écoutent le plus, ce sont effectivement, comme disait M. Martin, ses proches politiques. Parce que je pense qu'effectivement, il a un peu, tout en étant né dedans, il a un peu un mépris pour la communication. Lui, il met au-dessus de tout la politique, donc il passe du temps à réfléchir à ses messages, à ses initiatives, et il dîne régulièrement avec Michel Sapin, Jean-Yves Le Drian, et Stéphane Le Foll pour essayer d'établir ses reprises en main. Mais je pense qu'il a peut-être, s'il a ce mépris pour la communication, c'est aussi parce qu'il a peut-être sous-estimé la force du quinquennat, la place incroyable prise par les chaînes Tout Info. Il a un petit peu confondu le sarkozysme et une nouvelle ère médiatique. Et c'est ça aujourd'hui qu'il essaye
de rattraper,
mais sans, on ne voit pas encore comment il va le faire.
C'est vrai ça, Philippe Rieuter, le paysage médiatique a beaucoup changé. On vit à l'heure de la profusion d'informations de ces chaînes d'infos aussi en continu. Justement, hier, la communication avait plutôt une fonction d'accompagnement de la décision. Quel usage en font nos gouvernants aujourd'hui, alors au-delà de François Hollande? Est-ce qu'on peut parler d'une communication qui est devenue beaucoup plus stratégique, qui précède, qui éclaire la décision plus qu'elle ne l'accompagne aujourd'hui?
Oui, mais cela joue à double sens. C'est-à-dire à la fois, bien évidemment, quand une action politique... Une décision de politique publique ou une annonce est faite, il s'agit évidemment de tenter d'anticiper comment l'action va être reçue. Donc évidemment, c'est ça, faire de la communication. Mais on voit bien que les réactions médiatiques et aussi très largement de tout ce qui relève de près ou de loin à l'opinion publique agit en retour de plus en plus rapidement sur les décisions politiques. Et effectivement, certainement, le quinquennat, l'introduction du quinquennat produit une accélération du temps politique. On voit bien que on est en campagne quasi permanente quand on pense déjà à mi-mandat, à la capacité, la possibilité de se représenter pour le président de la République en place, que les élections intermédiaires se... par définition, scande le quinquennat. Et bien évidemment, de l'autre côté, la multiplication des outils médiatiques, la multiplication, bon, on pourrait évidemment parler de Twitter, des blogs, d'Internet, etc., mais également, effectivement, des chaînes d'information en continu, produisent une sorte d'effet de permanence, de réactivité permanente de n'importe quel micro-événement politique. On voit bien qu'une gaffe, une bourde, quelque chose qui pourrait paraître tout à fait insignifiant, alors cela dépend évidemment à quel moment cela se produit dans l'actualité, puisque quand l'actualité est surchargée par d'autres nouvelles jugées plus importantes, cela peut paraître secondaire, mais cela peut avoir un effet de reprise absolument extraordinaire. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy en a été victime pendant son quinquennat, on se souvient de son altercation sur l'agriculture par exemple, des éléments qui jusqu'alors pouvaient paraître extrêmement secondaires ou invisibles, désormais sont visibles au grand jour, et évidemment font l'objet d'énormément de commentaires sur... même pas tellement la politique, mais la stature. Regardez par exemple le nombre de débats pour ce président-ci, c'est-à-dire François Hollande, mais pour le président Nicolas Sarkozy, sur leur capacité ou leur incapacité d'être à la hauteur de leur fonction.
Une des difficultés, je pense que François Hollande, il avait comme modèle la présidence Mitterrand, avec notamment la capacité de François Mitterrand de gérer le temps. Il aurait aimé imprimer ça. Et ça s'est heurté avec cette nouvelle pression médiatique qu'avait connue Nicolas Sarkozy, mais qui s'est quand même beaucoup accélérée depuis un an, je dirais, depuis la crise de l'UMP. Là, ça a été en direct, 24 heures sur 24, les chaînes Tout Info sur un sujet, le martelant, le remartelant. Et ça, il a pas encore réussi. Alors je pense que du coup il y a une sorte de double niveau. Il travaille sur le fond sans faire trop de publicité sur ses mesures, par exemple sur la compétitivité, sur le marché du travail, en se disant un jour ça ressortira. il y a une sorte de flot comme une mer, quoi. Un flot qu'il essaye de gérer un peu en étant à la traîne et en dessous en essayant de travailler en profondeur, en se disant un jour la reprise reviendra, il y aura des gains, des résultats, et ça je pourrais le vendre politiquement et on oubliera ce clapotis de la mer qui a été un peu désordonné.
Alors Pierre Martin, je rappelle que vous êtes politologue au CNRS, spécialiste des systèmes électoraux. Vous vouliez ajouter quelque chose ? J'avais juste une question à vous poser.
Je pense qu'il y a un dernier point qui est quand même important. Allez-y, posez votre question.
Finissez, je vous en prie, vous avez commencé.
Oui, mais je crois qu'il y a un dernier point qui est important, c'est que, et là aussi, ça interfère avec les problèmes de communication, mais je crois qu'il y a une sous-estimation de la part du président, et ça, je pense que ça peut être quelque chose d'assez important chez lui, de la dimension culturelle de la vie politique. Vous voyez, ce qui est significatif, c'est quand on dit « travaille sur le fond », on est toujours dans la dimension économique. Or, il est tout de même important de remarquer que le projet de loi et la loi sur le mariage pour tous, qui a donné lieu à des oppositions importantes, en même temps a été soutenu jusqu'au bout par la majorité de l'opinion. Or, le président ne s'est pas mis du tout en position, finalement, d'en profiter. Contrairement, par exemple, à Christiane Taubira. Et là, je crois que ça joue sur son image. Quand on dit on n'a pas le sentiment d'une direction politique, au fond, l'image, si vous voulez, culturelle, de la dimension culturelle de la politique, c'est certainement quelque chose qui, chez lui, a tendance à être négligé.
En même temps, on est dans une période de crise et les Français attendent des résultats sur l'emploi, le pouvoir d'achat.
Oui,
et c'est vrai qu'on a entendu au moment de la
même... Et c'est le discours qu'il a porté.
Oui, et puis beaucoup de critiques.
Quand vous comparez par rapport à Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy savait jouer sur cette dimension culturelle de la politique, sur la dimension identitaire. Et le projet concrètement que j'indique sur le mariage pour tous, il avait été soutenu par la majorité de l'opinion jusqu'au bout.
Mais c'est vrai
malgré
qu'on...
L'opinion
l'attend peut-être surtout sur ce sur quoi il s'est particulièrement prononcé et engagé, c'est-à-dire l'infléchissement de la courbe du chômage.
Oui, mais ça faisait aussi partie de ses engagements de campagne. Or, on n'a pas eu le sentiment, si vous voulez, qu'il se soit vraiment engagé là-dessus.
Parce que c'était aussi
que
le président.
Il ne s'est pas mis...
C'était le président de l'apaisement. Il s'est fait lire aussi sur l'apaisement et je pense qu'il a eu peur des crispations de la société que ça réveillait.
Oui, mais dans ce cas-là, si vous voulez, il y avait une différence. Christiane Taubira a parfaitement profité au point de vue popularité.
Oui, mais elle n'est pas présidente de la République.
Oui, ça change tout.
Oui, mais pourquoi vous partez du point de vue... Quand vous vous interrogez sur le nombre d'électeurs finalement de gauche qui font défaut, effectivement Nicolas Sarkozy savait mieux mobiliser son camp. Il le faisait aussi sur des questions culturelles.
Alors comment...
À mon avis, c'est un tort de croire qu'il n'y a pas de questions culturelles qui pourraient mobiliser les électeurs de gauche. C'est ce qui s'est passé sur le mariage pour tous.
Comment réhabiliter cette parole présidentielle que l'on dit abîmée ? Ça peut passer. C'est donc par la question culturelle. Ce sera en tout cas le dernier mot de Pierre Martin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Cécile Cornudet, merci Philippe Riotor. Je rappelle le titre de votre ouvrage, réédité à la découverte, sociologie de la communication politique. Du grain à moudre, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Céline Leclerc, Fanny Richet et Émilie Chaudet. Réalisée ce soir par Luc-Jean Reynaud, assisté de Dali Ya.